France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information. C'est le journal de la rédaction avec Mathieu Laurent. Rebonjour Mathieu.
Rebonjour Marie Laborie, bonjour à toutes et tous. 29 ans après la décision de Jacques Chirac qui mit un terme à la conscription, Emmanuel Macron demain, dans l'enceinte de la 27e brigade d'infanterie de montagne de Vars près de Grenoble, présentera son nouveau projet de service national. Invité de cette édition, Bénédicte Chéron, historienne à l'Institut catholique de Paris, qui publiera en janvier prochain un ouvrage intitulé « Mobiliser, rétablir le service militaire, le grand malentendu ». Également au sommaire, les craintes fondées des 11 000 salariés d'Auchan, dont près de 300 enseignes, vont passer sous la bannière Netto ou bien celle d'Intermarché. Explication de Wafia Kenich. Avec Tara Stegel, nous reviendrons sur les conclusions plutôt encourageantes de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, selon laquelle les ondes radiofréquences issues du téléphone portable ne causent pas le cancer. Dans l'actualité internationale, une offensive massive de l'armée israélienne dans le nord de la Cisjordanie. Ni occupé. Précision de Thibault Lefebvre, Jérusalem. Enfin, encore une histoire de politique militaire. Nous sommes en ligne de Taipei. Le gouvernement taïwanais souhaite en effet augmenter son budget de la défense face aux menaces chinoises. Le projet de passage sous bannière Netto ou Intermarché de quelques 300 supermarchés Auchan qui doit être soumis à l'autorisation préalable des autorités de la concurrence compétentes pourrait prendre effet fin 2026 selon la direction d'Auchan. 11 000 salariés sont concernés et potentiellement inquiets. Un tel bouleversement a connu des précédents socialement venimeux. Bonjour Wafia Kenich.
Bonjour Mathieu.
Les syndicats d'Auchan, Wafia, n'ont d'ailleurs pas tardé à dire leur crainte d'une casse sociale à venir.
Oui, c'est un mouvement qui n'est pas isolé, hein, Mathieu, une tendance qui inquiète les syndicats parce qu'avec les franchises, on assiste à un transfert de contrat de travail. Auchan a annoncé vouloir créer une société pour les salariés de ses 300 magasins. Conséquence pour eux, la remise en cause de leurs conventions collectives et de leurs avantages. La grande distribution a déjà expérimenté ces franchises, le dossier Carrefour, alors il est juridiquement différent, mais au final, les salariés en location-gérance ou en franchise ont perdu en salaire et en conditions de travail, selon la CFDT. Toujours est-il que quand on transfère les contrats de travail parce que l'on change d'enseigne, par exemple, au bout de 15 mois, les accords peuvent être renégociés avec, selon les syndicats, une baisse des rémunérations et des avantages. Le but de ce modèle, c'est de réduire le plus souvent la masse salariale, de réduire les coûts. Tout reste ouvert dans ce cas Auchan. Les organisations syndicales n'ont pas eu de détails sur le modèle qui sera choisi. Enfin, tout cela s'inscrit dans un paysage qui se redessine. Auchan, Casino, Intermarché, Carrefour, chacun se replace sur ce terrain extrêmement concurrentiel de la grande distribution. Du côté des salariés, on attend désormais avec appréhension la décision de l'autorité de la concurrence qui doit se prononcer dans les semaines à venir sur ce projet.
Et Wafia, vous avez joint ce matin Gwenaëlle Monnier, salarié d'Auchan, délégué CFDT pour les supermarchés et hypermarchés du groupe propriété de la famille Mullier.
Oui, et selon elle, les informations livrées par la direction indiquent qu'une clarification n'est pas attendue avant l'an prochain. D'ici là, tout est incertain pour les salariés. On l'écoute.
Ça fait des années qu'on fait des plans de sauvegarde de l'emploi, qu'on fait des restructurations, des nouveaux modèles d'organisation du travail. Aujourd'hui, pour en arriver là, comment on peut faire une annonce comme ça à un mois de Noël? C'est ce côté qu'on nous a toujours mis dans la tête. Moi, je suis arrivée en 2008 chez Auchan. On m'avait dit, c'est une grande famille, tu verras. De toute façon, ici, on se tutoie. Mais aujourd'hui, on sent bien qu'il y a quelque chose qui s'est cassé et qui n'arrive pas à remettre en place. Et les salariés sont tellement écœurés, tellement... Ils ont été tellement malmenés par toutes ces restructurations qu'aujourd'hui, ils n'y croient plus et plus rien les retient, en fait. Il n'y a plus besoin de se dire « oui, mais je vais le faire pour eux ou pour moi parce que ça va faire grandir mon entreprise ». C'est plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est « bah ouais, je viens, puis demain, si je suis ailleurs, c'est pas un problème ». Et c'est bien dommage parce que du coup, la société, l'entreprise, elle s'est effritée avec leur manque d'humanité et de compassion.
Gwenaëlle Meunier, salariée d'Auchan et déléguée CFDT. Le tribunal judiciaire de Paris a décidé ce matin le renvoi du dossier Shein à la demande de l'État pour des raisons de procédure. L'audience est renvoyée au vendredi 5 décembre. La plateforme asiatique était convoquée après la découverte de la vente de poupées sexuelles d'apparence enfantine et d'armes de catégorie A. L'État souhaite sa suspension en France pour 3 mois. L'État qui s'apprête dans le même temps à saisir un juge civil contre les plateformes AliExpress et Joom, qui vendent aussi des poupées pédopornographiques. Le ministre de l'économie envoie un message aux collectivités locales, aux finances exsangues, qui la semaine dernière ont découvert le chiffrage par Bercy de la mise à jour des fichiers de logement, avec à la clé une augmentation de la taxe foncière pour 7,4 millions de logements en 2026. Roland Lescure s'engage, je cite, à écouter les collectivités locales qui envisageraient de suspendre cette mesure.
Elle a passé au crible 250 travaux les plus robustes et pertinents. Ce sont les termes choisis par l'ANSES qui avance la phrase suivante.
Les ondes radiofréquences auxquelles expose l'usage du téléphone portable ne causent pas le cancer, et de préciser, au vu des études scientifiques disponibles, eh bien que tout cela n'est sans conséquences graves. Voilà ce qu'affirme l'Agence nationale de sécurité sanitaire, tout en renouvelant ses conseils de prudence, en particulier pour les enfants, face à des usages qui évoluent très vite. Bonjour Tara Schlegel.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Tara, une conclusion plutôt rassurante, dirions-nous, compte tenu de la méthode de travail de l'agence et de la compétence de ses spécialistes.
L'ANSES a mené un travail exhaustif, 45 réunions plénières pour discuter de toutes ces études, une journée publique aussi, la méthodologie, les conclusions ont été détaillées, expliquées. Il n'empêche que sur la douzaine d'experts réunis, l'un, Gérard Ledoix, professeur de biologie, retraité à l'université de Clermont-Auvergne, émet de sérieuses réserves, qui sont d'ailleurs publiées dans l'avis. Pour lui, ses collègues ont d'abord refusé de prendre en compte ce qu'on nomme les effets non thermiques des ondes, au-delà donc de l'oreille qui chauffe, vous savez, quand on colle son téléphone.
Non thermique, c'est-à-dire que actuellement tous les opérateurs disent suffit d'éloigner l'appareil de la personne, on diminue la chaleur, donc on n'a plus d'effet. En fait, c'est pas du tout ça. C'est le rayonnement en tant que tel qui intervient sur la physiologie des êtres vivants, qu'ils soient humains, animaux ou végétaux. Ça agit sur le système immunitaire, la fertilité, donc la production de gamètes. Ça agit sur le cerveau, le fonctionnement du cerveau. Ça agit sur le fonctionnement cardiaque. Donc, si vous voulez, ça, c'est un point important de dire que c'est pas un effet indirect des ondes, c'est un effet direct des ondes sur les êtres vivants.
Gérard Ledoix a lui mené des expériences sur les tomates qui montraient indubitablement cet effet. Il revient donc sur l'argument, la réaction du groupe de travail qui s'est dédouané, dit-il.
En disant les effets non thermiques, oui, c'est pas prouvé, voilà. Et en fait, si, bien sûr que c'est prouvé. Si vous voulez, je prends une photo, vous êtes dessus, c'est un fait, et puis je fais 3 photos, vous n'y êtes pas, on dit, ah, il y a 3 photos où elle n'y est pas, une photo où elle y est, donc il y a plus de chances qu'elle ne soit pas dans la pièce. C'est un peu ça ce qu'on a fait, là, au niveau de l'ANSES.
Plusieurs études sur les rats, notamment, mais aussi des études épidémiologiques, montrent un lien avec le cancer, réaffirme Gérard Ledoix.
On voit les effets qui sont robustes, hein, des études robustes qui montrent qu'il y a un effet au niveau des tumeurs sur des gliomes et des méningiomes, au niveau du cerveau humain, au niveau de la thyroïde humaine, des effets de leucémie notamment chez les enfants, des carcinomes cutanés, ça c'est établi, des cancers de la vessie, ça c'est établi, des cancers de la prostate et de la vulve, ça aussi c'est établi. C'est-à-dire qu'il y a des études robustes, non remises en cause, qui montrent cela. Eh bien, s'il y en a une qui le montre, c'est suffisant.
Voilà la conclusion de cet expert. La seule interprétation des études analysées dans ce rapport, c'est qu'il y a suffisamment de données convergentes et de faits avérés pour conclure que les radiofréquences ont un effet possible, sinon probable, sur le développement de cancers. Donc, voilà ce que dit cet expert sur les 12 qui ne sont pas, eux, du même avis que lui. Vous retrouvez tout ça dans l'avis qui est publié sur le site de l'ANSES.
Merci de vos explications, Tara Schlegel. La Cour de cassation se prononce en début d'après-midi sur le pourvoi de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion. L'ex-président était condamné le 14 février 2024 par la Cour d'appel de Paris à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois ferme pour le financement illégal de sa campagne présidentielle perdue de 2012. Dans ce dossier, les investigations ont révélé que pour masquer l'explosion des dépenses de sa campagne, près de 43 millions d'euros pour un maximum autorisé de 22,5 millions, un système de double facturation avait été mis en place imputant à l'UMP, devenu LR, sous couvert de conventions fictives, une grosse partie du coût des meetings. Ce dossier peut valoir à Nicolas Sarkozy une deuxième condamnation pénale définitive, après celle pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes, également appelée Bismuth.
Ce sera donc demain dans l'enceinte de la 27e brigade d'infanterie de montagne à Vars, près de Grenoble. Le chef de l'État y présentera son projet de service national.
Et il s'agit de proposer à la jeunesse un nouveau cadre pour servir au sein des armées après l'échec du SNU, Service National Universel. Il s'agit de redonner masse aux armées. Nous sommes, comme convenu, en ligne avec notre invité, Bénédicte Chéron. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes historienne à l'Institut catholique de Paris. Vous allez publier en janvier prochain un ouvrage intitulé « Mobiliser, rétablir le service militaire, le grand malentendu ». Bénédicte Chéron, premier point, on entend parler donc de 50 000 personnes, 50 000 recrutements d'ici à 2035, un service rémunéré de 10 mois. Est-ce que ça pourrait changer tout cela, la physionomie de l'armée française ?
Alors l'objectif de 50 000 volontaires en 2035, il est vraiment extrêmement ambitieux. Les données dont on dispose sur les systèmes de volontariat qui existaient déjà dans le service militaire, qui n'était pas volontaire à l'époque, mais il y avait des systèmes de volontariat à l'intérieur, dans les années 80 et 90, montrent que c'est vraiment un objectif très ambitieux parce qu'au maximum, avec des arguments financiers à l'époque très convaincants, on atteignait les 20-23 000 au grand maximum et on était plutôt autour de 10 à 15 000 volontaires. Donc 50 000, ça paraît très ambitieux. Si effectivement on arrivait à 50 000, ça changerait la physionomie des armées, mais ce n'est pas sûr du tout qu'on arrive à cet objectif. Et les chiffres annoncés pour les années immédiates, celles qui paraissent plus certaines parce que le président de la République sera encore au pouvoir et les actuels responsables politiques en place, sont des objectifs beaucoup plus marginaux, en fait, au regard de ce que sont les armées. Si on est à 3 000 l'année prochaine, même si on montait à 10 000, ce qui est un objectif en lui-même aussi ambitieux, ça ne modifierait pas substantiellement les armées professionnelles qui comptent environ 200 000 soldats dans les trois armées.
Bon, ce service militaire rénové, selon vous, est-ce qu'il permettrait, comme c'est affiché, de renforcer la cohésion nationale ?
Alors, c'est une question qui est très compliquée et toujours un peu éthérée, un peu théorique. En fait, quand on fait l'histoire du service militaire au XXe siècle, on se rend compte qu'il a joué un rôle sur le lien social et politique qui unit les Français entre eux jusqu'à la guerre de 14-18, parce que le contexte était très particulier. C'était celui qui suivait la défaite de 1870 contre la Prusse. Et il y avait quelque chose dans la société qui faisait que le service militaire a effectivement produit cet effet. Mais dès l'entre-deux-guerres, et surtout dans la seconde partie du XXe siècle, toutes les données dont on dispose à l'heure actuelle montrent qu'en fait, le passage sous l'uniforme de chaque classe d'âge masculine a en fait assez peu de conséquences sur l'état de la société. Alors, on s'est tous un peu convaincus que c'était possible parce qu'on est très marqué par notre histoire d'avant 14-18, parce qu'on gagne la guerre en 14-18 également. Mais il faut comprendre qu'en fait, un service militaire, il s'inscrit dans un contexte et que dès le lendemain de la défaite de 1918, en fait, ce contexte n'est plus le même. Et tout au long du XXe siècle, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, on voit que finalement, pour ceux qui le font, c'est une expérience positive ou négative, ça dépend des cas, mais sans que ça ait de conséquences substantielles sur l'état de la société.
L'objectif, Bénédicte Chéron affiché, c'est de renforcer, je cite, le pacte armée-nation. Et vous soutenez l'idée selon laquelle le service militaire permettrait de rapprocher la société française de ses armées. Il y a là, semblerait-il, à vous lire, la source même d'un malentendu. Pourquoi ?
Oui, un malentendu parce que là encore, en fait, ça n'est pas parce que des Français passent sous l'uniforme qu'ils comprennent forcément mieux les logiques de la guerre. Or, pour bien comprendre les armées, il faut comprendre les logiques de la guerre. Et là encore, en fait, ce qu'on observe, c'est que le service militaire, dans une société qui se sent protégée sur son territoire, ce qui est le cas des Français, parce qu'ils sont, parce qu'ils possèdent la dissuasion nucléaire et parce qu'ils ne se sentent pas menacés d'une invasion ennemie étrangère. Dans ce type de société, en fait, très rapidement, les services militaires deviennent davantage une expérience individuelle vécue sous l'uniforme dans lesquelles les gens estiment qu'ils se sont enrichis ou pas enrichis, ça dépend des cas, mais sans forcément qu'il y ait une bonne compréhension des rapports de force internationaux et des logiques de la guerre. Et c'est ce qui s'est produit là encore dans les années 70 et 80. Au début début des années 80, il y a encore quasiment tous les garçons qui font un service national et dans le service national un service militaire. Et pourtant, il y a moins de la moitié des Français, voire moins de 40% des Français qui établissent un lien entre le service militaire et la défense nationale.
Et oui, il y a encore du chemin à parcourir.
Voilà, il était devenu autre chose et la situation n'ayant pas fondamentalement changé, il est possible que le même sort advienne à l'actuel service militaire volontaire qui est annoncé.
Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bénédicte Chéron, historienne à l'Institut catholique de Paris. Je rappelle le titre de votre ouvrage intitulé justement « Mobiliser, rétablir le service militaire, le grand malentendu » aux éditions du Rocher. Livre à consulter dès le mois de janvier. Merci à Loïs Guérin pour la préparation.
La guerre en Ukraine fait l'objet d'un débat au Parlement européen.
Un débat en pleine négociation sur un plan de paix proposé par le président américain, plan amendé après des pourparlers à Genève en prenant soin de ne pas heurter Donald Trump. Donald Trump dont l'émissaire spécial Steve Witkoff est attendu à Moscou la semaine prochaine. Visite confirmée ce matin à Berlin. Le Kremlin qui juge par ailleurs, je cite, « inutile les efforts des Européens pour jouer un rôle dans le règlement du conflit ». Fin de citation. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Fabien, vous êtes en direct de Strasbourg au Parlement européen. Une manière, si je puis dire, d'accompagner les débats de la matinée.
Effectivement, et dès son introduction, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, émet d'emblée d'importantes réserves sur le plan Trump.
Tout accord doit assurer une sécurité réelle à l'Ukraine. C'est une nation souveraine, donc il ne peut y avoir de limite fixée à la taille de son armée. Cela rendrait le pays vulnérable à de futures attaques. C'est aussi un enjeu de sécurité européenne.
Hors de question d'accepter ce plan en l'état, tonne la gauche européenne, Iratxe Garcia Pérez pour les sociodémocrates.
Le plan si mal nommé dit de paix par Trump et Poutine n'est pas un plan de paix. C'est un plan de capitulation qui trahit nos valeurs.
Il n'y a guère que l'extrême droite représentée par la hongroise Kinga Gál en l'absence du président des Patriotes pour l'Europe, Jordan Bardella, qui salue ce plan Trump.
Une chance unique s'offre à nous aujourd'hui, une chance de paix, une chance qui probablement ne se représentera pas à l'avenir. Il est donc essentiel de ne pas passer à côté.
Un plan sur lequel les Européens n'ont pour l'instant eu aucune prise.
Merci à vous, Fabien Cazot, en direct du Parlement européen à Strasbourg. Au Proche-Orient, la guerre sur tous les fronts, alors que les cessez-le-feu à Gaza et au Liban ne tiennent qu'à un fil, l'armée israélienne mène une nouvelle opération contre des groupes armés palestiniens dans le nord de la Cisjordanie occupée. À Jérusalem, Thibault Lefebvre.
Ce que l'on sait, selon plusieurs sources palestiniennes sur place, c'est que cette nouvelle opération militaire a commencé vers minuit, que des véhicules blindés sont entrés dans la ville de Toubas, c'est au sud-est de Jénine, pas loin de la vallée du Jourdain, que des hélicoptères ont été mobilisés, que les Israéliens ont distribué des tracts à la population précisant que la région était devenue à leurs yeux un refuge pour le terrorisme et que des Palestiniens de la ville voisine de Tamoun ont été arrêtés. Le témoignage sur place d'Alaret Al-Housni, c'est un journaliste palestinien de l'agence de presse Wafa.
Des maisons ont été perquisitionnées, des familles ont été expulsées. Ces maisons sont désormais des centres d'interrogatoire et des casernes. On ne connaît pas encore le nombre de personnes qui ont été arrêtées pour être interrogées par les forces d'occupation.
La zone est en état d'urgence, les écoles sont fermées, les déplacements déconseillés, l'eau est coupée par endroits. Les brigades Al-Quds, branche armée du djihad islamique affiliée à l'Iran, est dominante dans cette région, se disent prêtes à riposter. Ce nouveau coup de force de l'armée israélienne pourrait durer plusieurs jours. Il s'inscrit dans la continuité de l'opération Mur de fer lancée au début de l'année dans les camps de réfugiés de Jénine et de Tul Karem.
À Taïwan, le gouvernement souhaite augmenter son budget de la défense de 40 milliards de dollars supplémentaires, soit 34 milliards d'euros sur les 8 prochaines années. Une somme conséquente mais nécessaire, selon le président taïwanais, pour garantir l'autonomie de Taïwan face aux menaces militaires grandissantes que la Chine impose à l'île de 23 millions d'habitants. Jules Bois nous appelle de Taipei.
Avec ce budget record de plus de 3% de son PIB, l'objectif est d'obtenir des systèmes de défense capables de protéger Taïwan en cas d'attaque de son voisin chinois. Les détails n'ont pas été annoncés, mais lors de sa présentation, le président taïwanais a été clair sur ses intentions.
Ce budget est un investissement nécessaire pour faire face à la menace que représente la Chine. C'est un investissement pour la paix et pour la sécurité de Taïwan. Ce budget n'atteint pas encore nos objectifs de 5%, mais nous espérons sincèrement que les partis d'opposition soutiendront cette initiative.
Si le président espère obtenir le soutien des partis de l'opposition, c'est parce qu'il n'a pas la majorité au Parlement qui décidera d'adopter ou non cette proposition de budget. Le président du TPP, l'un des principaux partis d'opposition, dénonce déjà l'absence de concertation.
Nous soutenons sans équivoque une augmentation raisonnable du budget de la défense de Taïwan, mais ni le public ni les législateurs n'ont été informés au préalable des détails. Nous devons rappeler à l'administration Lai Ching-te qu'elle ne doit en aucun cas faire obstacle à la démocratie.
Pour tenter d'apaiser les désaccords, le ministre de la Défense taïwanais promet que ce budget permettrait de générer 11 milliards d'euros de revenus et de créer 90 000 emplois.
Quelques mots de la météo de l'après-midi pour refermer ce journal. Ciel couvert tout au long des massifs de l'Est et de l'Auvergne, en région PACA, tout comme dans le Languedoc, Roussillon, franc soleil, mistral puissant et tramontane vigoureuse, 80 à 90 km/h. Ce journal a été préparé avec Axel Dubois, à la technique Grégory Wallon.